Donc on va donc débuter ce premier café de la ville de cette nouvelle saison consacrée donc au bonheur dans la ville. Marie-Pierre Bernard est à côté de moi parce qu'elle co-organise ce café de la ville. Elle est architecte, donc la SARL, l'Archive Violette. Elle est membre de la Maison de l'Architecture. Et moi-même, je suis donc Vincent Legrand, maître de conférence en droit et membre aussi de la Maison de l'Architecture de Basse-Normandie. Donc ces cafés de la ville sont organisés par le pôle ville de la Maison de Recherche des Sciences de l'Homme de l'Université de Basse-Normandie et par donc la Maison de l'Architecture à raison d'une cadence de 4 cafés par an. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Lucile Grésillon, qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas intervenante présentatrice, mais intervenante tout court. Et donc, on est heureux de l'entendre à ce titre-ci. Donc, Lucile Grésillon est maître de conférence en géographie. Et elle est surtout l'auteur d'un livre qui nous a finalement fait organiser ce café, qui est un peu la trame de ce café. Donc, un livre qui s'appelle « Sentir Paris, bien-être et matérialité des lieux ». Hélène Fouché, directrice du service environnement et cadre de vie de la ville de Caen, et Dominique Laprie-Santenac, qui est architecte urbaniste de l'État et membre de la Maison de l'Architecture.
Donc à partir de l'ouvrage de Lucile, donc qui s'appelle Sentir Paris, bien-être et matérialité des lieux, ce café de la ville nous amènera à mettre en relation son travail avec le point de vue d'acteurs de terrain, donc qui sont Hélène Fouché et Dominique Laprie-Santenac, et qui participent à la construction d'un espace urbain de qualité. Donc comment sortir de la perception négative de la ville lorsqu'on parle de bien-être, de qualité de notre environnement? Comment sortir du clivage campagne-ville? Et la ville ne participe-t-elle pas également à l'épanouissement de chacun? La ville exerce une attraction indéniable au plan économique ou culturel, par exemple, principalement parce qu'elle renferme une offre de services indispensables au bonheur de chacun. Musées, cinémas, magasins, restaurants, cafés. Mais au-delà de ces fonctions aisément perceptibles, comment la ville forme-t-elle un lieu, un espace qui participe au bien-être de ses habitants, de ses usagers, de ceux qui y vivent, de ceux qui y travaillent, de ceux qui ne font qu'y passer un moment? Donc, je vais poser d'emblée toutes mes questions à Lucile. Donc, nous avons décidé d'organiser le débat autour de ton livre. Peux-tu nous résumer comment tu définis le bien-être et la perception de la matérialité des lieux? Comment, à partir de quelle perception, abordes-tu la question du bonheur dans ton analyse de l'espace urbain? Et comment en viens-tu à défendre l'idée que le bonheur n'est pas forcément basé sur la perception de la verdure, du chant des oiseaux, en un mot, sur la campagne, mais qu'il est aussi dans la ville?
Alors le bien-être. Alors moi, mon travail, il est interdisciplinaire, donc entre la géographie et les neurosciences. Donc je m'appuie en fait sur la définition des neurosciences. Alors le bien-être, c'est un état. On dit « je me sens bien ». Et au niveau neurophysiologique, c'est l'excitation du centre du plaisir, modérée et durable, avec éventuellement une touche d'émotion positive. Enfin positive, agréable, pour ne pas être manichéenne. Ensuite, matérialité des lieux. Alors, la matérialité des lieux, c'est matérialité déjà, c'est tout ce qui peut être perçu par nos 5 sens. Voilà, donc ça, c'est une définition de Paul Ricoeur. Ensuite, lieu. Alors, pourquoi j'ai choisi lieu? Parce que, différemment à espace, lieu, un lieu, c'est un espace qui a une identité, qui a un nom, et qui, en général, est support de notre vécu. C'est-à-dire que, par exemple, eh ben, on donne rendez-vous dans un lieu. On va dire, voilà, je te donne rendez-vous, place Fontaine, où on se voit à la fac. Voilà, ça, c'est des lieux. Ensuite, sentir Paris. En fait, le challenge de cette recherche, c'était de partir de la perception olfactive et de montrer donc l'influence de l'importance plutôt de notre sensibilité dans le rapport que l'on a au lieu. Voilà pour les termes du livre. Ensuite, je voulais faire quelque chose sur le bonheur, parce que le bonheur, c'est pas le bien-être. Alors, le bonheur, qu'est-ce que c'est par rapport au bien-être? Alors, j'ai dû potasser un peu, forcément, parce que je ne sais pas tout. Et en fait, le bonheur, c'est le bien-être plus quelque chose en plus, et même plusieurs choses en plus. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que le bien-être était une excitation du centre du plaisir modéré et durable, avec peut-être quelque chose, un émotionnel agréable. Et le bien-être, il y a un sentiment de joie qui est là. Et également, il y a le sentiment que le temps n'existe pas, d'un temps suspendu où on oublie absolument tous les soucis. Donc c'est quand même plus large que le bien-être, même si je dirais que le bien-être est une condition nécessaire, mais pas suffisante au bonheur. Affirmation qu'il est possible, bien sûr, de relativiser. Dans les recherches que j'ai faites, ce que j'ai pu voir, c'est que les citadins se créent spontanément des manières d'être bien, heureusement d'ailleurs, hein, sinon on serait très très mal peut-être, aussi bien dans leur lieu de vie que dans leur manière d'habiter. Voilà. Et donc, en fait, les citadins, naturellement, se créent des conditions favorables pour être heureux, donc pour être dans le bonheur. Ensuite, tu m'as posé la question du choix de l'olfaction. Pourquoi est-ce que j'ai choisi les odeurs et l'odorat? C'est parce que c'est un des sens les plus individuels. C'est-à-dire qu'en fait, en neurosciences, on explique que l'olfaction est codée par 342 gènes. Alors ça, c'est un peu compliqué. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme génétique. En fait, tout ça pour dire que quand on sent, par exemple, cette bière qui est à côté de moi, ma voisine va sentir une odeur qui sera cette bière pour elle et moi, j'en aurai une autre dans les narines parce que les récepteurs olfactifs sont différents. Donc les conséquences sont très intéressantes parce que ça veut dire que quand on sent une odeur et qu'on veut essayer de la qualifier aussi bien en termes d'identification qu'en termes d'évaluation, on va faire référence à un souvenir personnel. Ce qui fait que l'intérêt, c'est quand on va faire parler les gens sur les odeurs, ils vont nous parler d'eux et très profondément. C'est-à-dire qu'ils vont parler de cette maison-là, elle m'a fait penser à l'odeur de chez ma grand-mère. Et si la personne aime sa grand-mère, on va voir qu'elle est dans le bien-être. Voilà, c'est-à-dire que si vous arrivez dans le métro et quelqu'un vous parle de l'odeur de chez sa grand-mère et qu'elle aimait beaucoup cette grand-mère, c'est qu'a priori, elle est bien dans le métro. Ce qui peut paraître étonnant, mais c'est l'expérience. Bon, j'ai oublié de vous dire aussi que j'avais interrogé 250 personnes, 250 Parisiens. Donc l'étude est fondée sur 250 Parisiens. La troisième question, c'est le bonheur n'est pas forcément basé sur la perception de la nature. Oui, alors on reste toujours à l'histoire que le bonheur est un état de bien-être avec quelque chose en plus, sachant que ça peut être discuté. La condition nécessaire pour être dans le bonheur et le bien-être, c'est d'être bien émotionnellement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas être en état de dépression et ça veut dire également avoir un état de santé acceptable. Hein, qui fasse qu'on n'est pas dans la douleur. Et c'est vrai que déjà, la ville offre plus de services que la campagne de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de thérapeutes très différentes et puis il y a des services à la pointe au niveau santé qu'il n'y a pas à la campagne. Donc on va dire que les conditions intérieures au bien-être, c'est-à-dire être bien à l'intérieur de soi, être bien émotionnellement, être bien physiquement, sont plus faciles à atteindre en ville qu'à la campagne. Après, la deuxième chose, c'est que pour être dans un état de bien-être, il faut être stimulé sensoriellement, c'est-à-dire qu'il faut que le centre du plaisir soit excité quasiment tout le temps. C'est-à-dire que normalement, on devrait être toujours dans un état de bien-être si on a des stimulations sensorielles très fréquentes et très différentes. Et la ville, par sa diversité de bâtis, de paysages, de rencontres, de visuels, tout ce que vous voulez, fait que on est plus facilement, le centre du plaisir est plus facilement stimulé grâce à cette diversité. Donc la ville est le lieu de la multiplicité de stimulations sensorielles. Alors il y a un double intérêt à cette multiplicité, je vais y arriver, des stimulations sensorielles. C'est que d'abord il y a une absence de monotonie, donc ça excite le centre du plaisir, mais en plus on a une plus forte adaptation donc aux différentes sensibilités des personnes, puisqu'on est très différents les uns des autres. Alors, l'étude que j'ai menée, les recherches que j'ai menées, et en collaboration donc avec des neurosciences, puisque j'ai travaillé avec plusieurs neurophysiologues, ont montré qu'il y a différentes sources, ce qu'on appelle des sources de bien-être, c'est-à-dire des différentes manières d'être bien en ville selon notre propre personnalité. La première, c'est des sources de bien-être qui sont multisensorielles. C'est-à-dire qu'on va être bien parce qu'on va pouvoir aller dans des restos très différents et manger des choses très différentes. Donc, ça sera le gustatif qui va jouer. On va pouvoir être bien parce qu'il va y avoir des perceptions d'odeurs très, très différentes sur le chemin si on marche. On va passer par une odeur de boulangerie, après une odeur de pizzeria, ensuite une odeur de parfumerie. Bon, après, on verra, il y a quand même beaucoup de bémols parce qu'il y a des odeurs qui ne sont pas forcément très agréables en ville. Mais bon, bref, donc on peut avoir déjà du plaisir de ce point de vue-là. J'ai oublié les odeurs de jardin parce que je pense à Hélène Fouché. Voilà. Et puis également tous les plaisirs visuels qui sont liés à la diversité du paysage, à la diversité de l'architecture. Alors, deuxième source de bien-être, c'est les sources qui sont assez liées à ces premières, multisensorielles, c'est des sources esthétiques. C'est-à-dire qu'en ville, on va pouvoir aller voir des expos, on va pouvoir admirer des architectures particulières, on va pouvoir aller à des spectacles de danse, de musique, etc. Autre source de bien-être, alors c'est des sources de bien-être qu'on appelle émotionnelles et qui sont liées au relationnel. Et là, la ville aussi est très importante, puisqu'en fait, la ville, c'est le lieu, alors c'est pas une expression très très belle, mais le lieu de maximisation des interactions sociales. Il n'est pas de moi ce joli mot. Et en fait, c'est tout simplement que vu la diversité de personnes et d'endroits où il est possible de se retrouver, ça réfère également à l'importance des espaces publics en ville. Il y a énormément d'espaces publics. Et ben, il y a une multiplication des possibilités de se rencontrer, donc de se faire un réseau amical qui nous corresponde vraiment. C'est-à-dire que quelque part, on n'est pas comme à la campagne. J'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'en géographie, ça n'existe pas la campagne, mais c'est pas grave. Et ben, il y a moins ce choix-là. Voilà, quelque part, on subit un peu plus. Entre guillemets, le voisinage, etc. Ensuite, la dernière source qu'on a identifiée avec les neurophysiologues, hein, qui est aussi basée d'ailleurs sur la topographie du cerveau, hein, il y a une correspondance, c'est des sources de bien-être qui sont mentales et qui sont liées au savoir. Donc on voit bien qu'en ville, le savoir est plus facilement, satisfait, même si aujourd'hui avec Internet, on peut mettre bien sûr des bémols. C'est-à-dire il y a des bibliothèques, des librairies, des universités. Et également, par rapport à ces sources de bien-être mental, c'est aussi un lieu où il est possible de s'engager d'une manière très diverse, politique, associative, etc. Mais c'est également le cas à la campagne. Donc voilà, c'est pas si clivé que ça. Donc on voit bien, à travers ce petit exposé, qu'il y a une diversité des sources de bien-être en ville qui permettrait, en théorie, donc à chacun de trouver son bonheur. Alors je voulais quand même terminer sur quelques bémols. C'est-à-dire que pour être bien et pour atteindre donc à certains moments le bonheur, il est nécessaire quand même d'avoir des conditions matérielles et économiques satisfaisantes, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les habitants des villes, donc on est bien conscient. Ça dépend assez quand même des moyens économiques, puisqu'il faut être en bonne santé psychique et physique. Ensuite, il existe également une matérialité en ville qui n'est pas forcément agréable. Donc on peut penser à la pollution, on peut penser aux crottes de chiens, on peut penser, etc. Et également des conditions sociales qui ne sont pas forcément évidentes non plus, puisque la ville, c'est également la ville, c'est également l'espace de l'anonymat, la promiscuité, etc. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie de votre attention.
Donc alors, deuxième série de questions qui cette fois s'adresse à Dominique Lapris-Santenac, qui est architecte des bâtiments de France. Et qui, pour le coup, a droit de citer dans ce débat plutôt pour la question du bonheur visuel et notamment de l'environnement bâti. On posera des questions plus sur l'environnement naturel, donc pour le coup, à Hélène Fouché. Alors, première question sur votre fonction. Votre rôle consiste donc non seulement à protéger les monuments historiques, mais aussi à protéger leur environnement. Le fameux périmètre des 500 mètres autour des monuments historiques que chacun connaît bien. À ce titre, comment peut-on expliquer ou comment expliquez-vous que la protection des abords des monuments historiques soit si souvent ressentie comme une intervention arbitraire, perturbant des projets immobiliers, qui pour le coup, du tout à chacun, qui pour le coup serait plutôt un coup de frein au bonheur de chaque habitant. Deuxième question, une question plus générale relative au bonheur. Pensez-vous précisément qu'à raison de vos fonctions, vous participez à la préservation d'un espace urbain de qualité ? Ou du moins du point de vue patrimonial. Et dans ce cas, est-ce que cette fonction précisément contribue, à votre sens, au bonheur des urbains ? Et troisième question, plus précise sur le sensoriel, sur les sens qu'a développé pour le coup Lucile. D'un point de vue sensoriel, la protection du patrimoine bâti, finalement, est-ce qu'elle ne contribue qu'à un bonheur qui ne serait que visuel, donc qui s'adresserait uniquement donc à la vue, ou est-ce qu'au contraire, on peut considérer que cette protection participe aussi au ménagement, voire à la sollicitation d'autres sens qui soient autres que la vue ? Voilà.
Merci. Alors, je vais sans doute avoir des propos de fonctionnaires. Donc, c'est dans un débat sur le bonheur, ça pourra sans doute être amusant. Et je commence par la première question, comment expliquer que la protection des abords soit ressentie comme une intervention arbitraire qui perturbe la réalisation des projets immobiliers, c'est faire sa propre autocritique. Alors, et un exercice dans lequel je suis mal à l'aise, puisque je passe mon temps à faire la critique de tous les projets, et j'ai du mal moi-même à imaginer que je puisse être critiquable. Bon, tout ça pour introduire de manière amusante, mais je pense qu'il y a un contexte administratif qui prédispose mal à recevoir l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Alors pourquoi ? Parce que dès lors que l'on dépose une demande d'autorisation de construire, le service instructeur, ce sont des termes très administratifs, en gros le maire, va informer le demandeur que le délai d'instruction de sa demande est majoré de 1 à 4 mois, voire plus dans des cas exceptionnels. Donc on va déjà retarder l'instruction de la demande d'autorisation, alors que le demandeur a des prêts qui courent, etc., et il doit respecter des délais que son banquier lui impose. Le second point, c'est que cet avis, il est justifié parce qu'on se trouve dans un périmètre, ce que les documents d'urbanisme appellent les servitudes d'utilité publique. Alors, on oublie utilité publique et on retient que servitude. Donc, en gros, on retarde l'instruction d'une demande au nom d'une servitude, d'une contrainte. Donc déjà, je pense que le demandeur est mal disposé à ensuite recevoir un avis de l'architecte des bâtiments de France. Alors l'architecte des bâtiments de France, quand je parle d'utilité publique, il se prononce en effet au titre d'un article de loi que je pourrais citer, allez, L621-31 du Code du patrimoine, parce qu'il faut citer le Code. Plus précisément, il s'agit d'apprécier ce qui, dans un projet de construction, est susceptible de modifier l'environnement du monument historique et qui pourrait en affecter la perception. C'est en gros les termes de cet article de loi. Alors j'ai commencé par apprécier parce qu'effectivement, même si on s'efforce autant que faire se peut de motiver son avis sur des critères objectifs, on est d'emblée dans l'appréciatif, dans le qualitatif. On est en dehors du champ réglementaire, en tout cas des articles objectifs, des règlements d'urbanisme, de postes de PLU qui prescrivent des implantations à tant de mètres de la limite séparative, à tant de mètres de l'alignement sur la voie publique, à tant de hauteur, etc. On est très clairement dans l'appréciatif, le subjectif, en gros l'arbitraire. Donc voilà, à mon sens, ce qui fait que l'avis de l'architecte des bâtiments de France peut-être mal reçu. La deuxième question, la préservation d'un espace urbain de qualité contribue-t-elle au bonheur des urbains ? Là encore, j'étais relativement mal à l'aise. Je me suis amusé à penser que je pouvais motiver un avis défavorable au nom du bonheur du demandeur. Voilà, on ne dira rien. Non, je ne pense pas que le juge administratif retiendrait l'argument. Mais bon, en tout cas, un fonctionnaire n'a d'autorité que celle que lui confère la loi, ou en tout cas un article de loi. La loi a pour fonction la défense ou la préservation d'un intérêt public. Donc, en dehors du bonheur, au moins on s'exprime au nom d'un intérêt public. Ça, c'est la première des choses. La seconde, me semble-t-il, c'est que cet intérêt public, c'est bien entendu celui de la préservation de la qualité des abords d'un monument historique, mais on s'efforce de l'intégrer, de le raccrocher à d'autres intérêts publics, le logement ou d'autres, que sais-je. En tout cas, on s'efforce de traiter nos dossiers avec les maîtres d'ouvrage, avec les maîtres d'œuvre, avec les élus qui tous défendent eux aussi, des intérêts publics. En tout cas, l'élu, c'est sûr. L'architecte aussi, puisque la loi sur l'architecture dit que la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public. C'est l'article 1 de la loi sur l'architecture. Donc un architecte déjà œuvre aussi pour un intérêt public. Donc on est tous collectivement, je pense, en charge d'intérêts publics. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire que les intérêts de chacun soient un intérêt collectif à défaut de bonheur. Je ne sais pas si ça peut contribuer au bonheur, mais au moins, sachez que tout bon fonctionnaire se doit de travailler au nom d'un intérêt public. Ensuite, la protection du patrimoine stimule-t-elle d'autres sens que la vue ? Je pense effectivement que cela stimule bien d'autres sens. Ça, c'est un aspect très personnel de ma façon de travailler. Je vous l'ai dit, on est tenu quand même de baser nos avis sur des critères objectifs. Alors, on peut avoir des sources documentaires, des plans historiques, on peut regarder les densités de bâtis, etc. Donc, on a des sources documentaires. Il faut, bien entendu, puisque lorsque un architecte des bâtiments de France se prononce, il doit se prononcer dans le champ de visibilité d'un monument historique, donc on doit ensuite se déplacer sur site pour apprécier ce critère de co-visibilité. Alors, je rentrerai pas dans le détail, c'est trop long, mais il faut forcément se déplacer pour voir. Donc la vision a déjà le premier sens. Ensuite, une fois qu'on est sur place, eh bien, il faut aussi, à mon sens, s'approprier les lieux et de diverses manières. Alors moi, je déambule, je prends des notes, des photos, des croquis, et ces déambulations font que on est sensible au son, au bruit, bruit de la circulation automobile, on est sensible aux odeurs, on avait parlé tout à l'heure des odeurs des boulangeries. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ces sens peuvent influer sur la vision, mais en tout cas, on a forcément un regard appréciatif de la qualité d'un espace parce qu'on cherche, parce qu'à mon sens, il faut s'approprier cet espace, ses qualités, pour pouvoir ensuite bien motiver son avis.
Très bien, merci beaucoup. Et donc, on va entrer dans le détail de l'intervention de notre troisième intervenante, donc Hélène Fouché. Première question très ouverte. Pensez-vous donc que dans l'exercice de vos missions, vous contribuez au bonheur des urbains ? Donc pour le coup, et si oui, parce qu'on pense que ça sera oui, pourquoi ? Deuxième question, finalement, et j'anticipe sur la réponse positive de la première question, à quel type de bonheur, dans ce cas, les espaces verts contribuent-ils ? Autrement dit, est-ce qu'ils sont d'abord des espaces esthétiques et qui, pour le coup, sont visuels, d'ailleurs, ils font joli ? Est-ce qu'ils sont des espaces biologiques, en ce sens qu'ils participent à une forme de biodiversité en ville ? Est-ce qu'ils sont des espaces pratiques, en ce sens que sont des espaces de détente, voire des espaces appropriés pour des repos ou au contraire pour de l'exercice physique ? Globalement, s'ils participent à la satisfaction de plusieurs sens, à quel sens ? Même question finalement que celle que j'ai posée tout à l'heure à Dominique Laprie-Santenac. Donc à quel sens prioritairement s'adresse-t-il ? Et puis en quoi, question plus ouverte sur votre mission, en quoi la nature en ville est-elle similaire ou au contraire différente de celle qui ne s'y trouve pas, donc de la nature en dehors de la ville ? Est-ce que la nature en ville est nécessairement artificialisée et est-elle riche d'autres espèces végétales et animales qui ne se trouveraient pas donc par ailleurs ?
Alors juste pour préciser peut-être mes missions qui sont beaucoup plus larges que les espaces verts, donc la direction environnement cadre de vie, elle s'occupe effectivement de l'entretien des espaces verts, mais aussi de la propreté. Donc j'ai retenu les crottes de chiens et je me dis peut-être que quand vous allez effectivement voir un projet, ça peut être bien de bien nettoyer les alentours du projet, parce que si effectivement il y a des odeurs de crottes de chiens, peut-être que l'efficacité de notre travail peut influer votre avis. Voilà. Donc je me dis quelle responsabilité, et finalement j'aurais peut-être mieux fait de pas venir. Alors, deuxième remarque, donc une fois ces préliminaires faits, donc effectivement, on travaille sur la propreté des espaces verts, donc on essaie de travailler globalement sur l'embellissement de la ville et donc l'amélioration du cadre de vie. Donc effectivement, on est dans la notion de bonheur. Alors bonheur, j'ai envie de dire, c'est un peu prétentieux. En tout cas, j'espère qu'on ne contribue pas au malheur des gens. Et là, quand j'ai vu la question, je me suis dit bonheur, malheur, en quoi on peut rendre les gens malheureux ? Donc bon. J'espère qu'on ne rend pas les gens malheureux. En tout cas, à partir du moment où on essaye d'améliorer le cadre de vie, on va plus travailler, alors peut-être pas sur le bonheur, parce que quelque chose en plus, je ne suis pas assez qualifiée pour le définir ou pour le préciser, mais on va peut-être plus travailler et effectivement améliorer le bien-être des gens. Alors pour ça, je vais juste faire référence à une étude qui avait été faite en 2009. Alors, je ne sais pas, on peut critiquer sa valeur. C'est une étude qui avait été faite par l'UNEP, l'Union des entrepreneurs du paysage. Alors l'idée, c'était aussi d'inciter les villes à faire appel à ces entreprises du paysage. Et ils avaient fait un sondage et ils avaient noté, alors j'ai les chiffres, hein, c'était une plaquette qui était sortie à l'époque, pour dire qu'effectivement, les espaces verts, en général, constituaient une source de bien-être, puisque le cadre de vie est la première préoccupation des Français. Et puis que les espaces verts et le végétal ont des effets positifs sur la vie sociale. Et donc l'effet calmant, apaisant des arbres, de la nature. Alors après, on verra ce qu'on définit derrière. Et puis, ils avaient cité aussi comme exemple, dans les hôpitaux, on parle de jardins thérapeutiques. Hein, il y a des jardins qui sont adaptés. Et là, il y a tout un travail pour que les jardins puissent être accessibles aux malades. Et cette approche de la nature permet d'aider les malades à guérir. Voilà, ou contribue à la guérison des malades. Après, ils étaient allés jusqu'à dire que dans les bureaux, le fait de mettre des plantes, ça calme, il y a moins de stress pour les agents, enfin pour les personnes qui sont dans les bureaux. Bon, là, c'est une autre question. Donc, compte tenu de tout ça, on peut dire qu'effectivement, les espaces verts sont source de bien-être et donc c'est dans ce sens qu'ils contribuent au bonheur des gens. La deuxième question, c'était quel type de bonheur les espaces verts contribuent-ils ? Et sont-ils d'abord esthétiques, etc., etc. Donc moi, je dirais d'abord, il y a plusieurs types d'espaces verts. Il y a des espaces verts qui vont être plus des espaces verts d'accompagnement. Donc en fonction du type d'espace vert, on va pouvoir voir à quel bonheur ou quel bien-être ils vont satisfaire. Donc on a par exemple ce que je vais appeler des espaces verts, des massifs d'accompagnement. Alors accompagnement de monuments historiques. Et donc là, justement, nous, quand on veut modifier ces espaces, on doit demander l'autorisation de... Surtout s'il s'agit de monuments historiques, je pense, l'esplanade de l'hôtel de ville qui est juste à côté. On a un monument historique en face avec une esthétique. Et à la limite, les espaces verts qui sont devant, les fleurs qu'on va mettre, vont mettre la touche finale. Hein. Cet espace vert tout seul, j'ai envie de dire, je ne sais pas s'il aura un sens. Le monument tout seul, bon, il a son sens et l'ensemble des deux fait qu'il y a un effet esthétique qui va être renforcé. Donc il y a tout ce qui est massif en accompagnement donc de monuments, de bâtiments. On va avoir des espaces verts qui vont être aussi des accompagnements d'une voie de circulation. Je pense à des bandes axiales où là, il y a du vert, c'est joli, surtout au printemps. Je pense à des alignements d'arbres. Donc ça, on est vraiment dans l'effet esthétique visuel. Ensuite, on a un autre type d'espace vert qui va être plus ce qu'on appelle, nous, des parcs fermés, comme la colline aux oiseaux, ou des grands espaces verts, comme la vallée des jardins, où là, effectivement, ça va être des espaces dans lesquels on va se détendre, on va se promener, on va changer d'ambiance. On parlera des sens tout à l'heure. Et on va se reposer, on va pouvoir jouer, faire des jeux de ballon, etc. Et donc, nous, on sent que, enfin, au niveau de l'entretien de ces espaces, au niveau du contact qu'on a avec les habitants, et on est de plus en plus, enfin les élus sont de plus en plus attentifs à la demande des habitants, et donc nous, de plus en plus, on doit y répondre. On constate qu'il y a vraiment une demande des habitants. Au départ, les espaces verts, c'était plus... Il y avait une esthétique, il y avait un savoir-faire des jardiniers, il y avait un savoir-faire horticole qu'on mettait en avant. C'était plus des espaces à regarder. Et aujourd'hui, il y a une attente des habitants qui veulent vivre l'espace. Donc on passe d'espaces verts à regarder à des espaces à vivre. Et cette notion d'espace à vivre, c'est tout ce qui va faire la différence et justement la difficulté de répondre aux habitants. Ça veut dire qu'ils veulent pouvoir, les habitants veulent pouvoir marcher sur les pelouses avant. On est en train de former les gardes espaces verts, mais effectivement, avant, dès que vous marchiez un peu sur la pelouse, vous aviez un coup de sifflet et puis quelqu'un vous disait « on ne peut pas marcher sur les pelouses ». Mais après tout, qu'est-ce qui empêche les gens de s'asseoir sur la pelouse ? Qu'est-ce qui empêche les enfants de jouer au ballon sur la pelouse dans la mesure où ils ne vont pas casser les fleurs qui sont à côté ? Dans la façon dont on travaille, la façon dont on essaye de travailler ces espaces verts, il y a une évolution et on passe d'espaces à regarder à des espaces à vivre. Et dans cette évolution, on travaille de plus en plus avec la nature. Et donc, ça va être dans ce sens-là, dans cette évolution-là qui part de l'attente des habitants, qu'on va participer plus à la biodiversité dans l'entretien de ces espaces. Alors, ensuite, s'il participe à la satisfaction de plusieurs sens, parmi les 5 sens dont dispose l'individu, dans quel ordre les positionnerez-vous? Alors, moi, je parlerai d'abord de la vue, hein, puisque j'ai parlé d'espaces, les espaces verts de proximité, un massif, ça fait joli. Hein. Après, il y a différents types de massifs. Donc, effectivement, il y a l'esthétique, il y a la couleur. Hein, quand tout d'un coup, on a une tache rouge ou une tache bleue, on circule en voiture, on passe devant un rond-point, et puis il y a de la couleur, on se dit, tiens, c'est joli. Alors, après... la façon dont on a travaillé pour faire que ce soit joli. Après, il y a de la technique. Je dirais que le deuxième sens, c'est l'ouïe, puisque quand on rentre dans un espace vert, quand on rentre à la colline aux oiseaux, même quand on est en haut, on entend au fond le bruit du périph, mais on a l'impression qu'on rentre dans un autre espace, il y a une autre ambiance. Alors peut-être qu'il y a peut-être d'autres sens qui influent, je ne sais pas. Mais voilà, on arrive à la vallée des jardins, le bruit des voitures s'estompe, on va entendre les oiseaux, on va entendre peut-être des bruits, peut-être le bruit des tondeurs, hein, de la tondeuse qui passe, mais déjà on n'a pas le même bruit. Ensuite, bon, il y a bien sûr les odeurs, hein, c'est sûr que... Mais là, il faut rentrer au cœur des espaces verts, hein, il va y avoir les odeurs des fleurs. Quand on va à la roseraie de la colline aux oiseaux, au moment où elle est fleurie, on sent bien cette odeur de rose. Au printemps, quand on commence à tondre les pelouses, on passe à côté de l'espace, tiens, l'odeur d'herbe verte, ça sent le printemps, ça sent... Et là, pour moi, c'est un bien-être. Alors, je ne sais pas à quel passé ça fait appel. Et puis, après, donc, d'abord la vue, l'ouïe, l'odeur. Et après, moi, je dirais maintenant le toucher qui se développe. Justement, quand on parle d'espace à regarder, à des espaces à vivre, les gens ont envie de développer le toucher. Il y a une fleur qui a l'air... qui a l'air sympa, il y a un végétal, ils ont envie de le toucher, ils ont envie de... Quand on dit j'ai envie de pouvoir m'asseoir sur l'herbe, il y a aussi une notion de contact, et je pense que ça, c'est des choses qui se développent. Et puis, le dernier sens, c'est le goût. Alors, je ne vais pas dire que les gens ont envie de brouter l'herbe. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que s'ils veulent la brouter, ils peuvent le faire maintenant, puisqu'on ne met plus... puisqu'on ne met plus de produits chimiques, enfin d'herbicides et de produits phyto dans l'herbe. Donc ça veut dire que, moi je pense aux enfants qui aiment bien patouiller, on a tous vu des gamins patouiller la terre et prendre le pissenlit et le mettre à la bouche. Maintenant, vos enfants peuvent prendre la pâquerette et la mettre à la bouche. Alors s'ils en mangent trop et qu'ils ont des problèmes de santé, là, je décline toute responsabilité, mais en tout cas, ils ne risquent pas d'être empoisonnés par des molécules chimiques qu'on aura mis pour l'entretien des espaces. Voilà. Et puis juste, effectivement, dans le cadre d'animations qu'on fait au niveau du jardin des plantes, il y a des animations sur les plantes qu'on peut goûter et les plantes qu'on peut manger. Voilà. Alors je ne vous donnerai pas de recette parce que là, je ne suis pas la spécialiste, mais je pourrais après faire passer les moments, enfin les dates de ce type d'animation. Alors, la dernière question, c'était par rapport à en quoi la nature est-elle similaire ou différente de celle qui ne s'y trouve pas ? En quoi la nature en ville, pardon, est-elle différente ou similaire donc de celle qui est à la campagne ou ailleurs qu'à la ville, par opposition, et est-elle artificialisée, est-elle riche d'autres espèces végétales ou animales ? Alors j'ai envie de dire, je vais dire, ça dépend de quelle nature. Si on va à la prairie, c'est bien, là on est bien à la nature telle qu'on la voit en campagne, en ville. Puisque la prairie, même s'il y a la ville autour, c'est vraiment un espace tel qu'on pourrait le trouver à la campagne. Vous allez au parc des Marais, par exemple, dans la Manche, on a une zone humide et on a exactement le même type de biodiversité, etc. On a le même type de nature et qui est préservée de la même façon, avec des oiseaux intéressants, des espèces végétales et animales qui sont préservées, parce qu'on a un point au milieu. Le reste de la nature qu'on a en ville, elle est automatiquement artificialisée parce qu'on doit la maîtriser. Si on ne touche rien, si on laisse faire la nature, à un moment, les gens vont dire il y a un laisser-aller, qu'est-ce qu'ils font à la ville de Caen ? Ils ne font plus rien. Voilà. On doit la contrôler, on ne doit pas la laisser nous dépasser. Donc, ne serait-ce que pour ça, il y a une notion d'artificialisation. Voilà. Ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui, dans l'entretien des espaces verts et puis... Ça correspond aussi à la demande des habitants. On met en avant ce qu'on appelle la nature ordinaire ou la biodiversité ordinaire. Ça veut dire que quand on prend un massif, quand on prend un espace vert, on va le considérer comme un espace écologique et on va faire en sorte que la nature nous aide à l'entretenir. Donc on va faire appel à des techniques, je pense à la protection biologique intégrée, on va utiliser des insectes utiles pour lutter contre des insectes nuisibles. Les pucerons, ça m'embête. Je mets des coccinelles, des chrysopes et je sais que les larves vont manger les pucerons et que globalement je pourrais réguler ma population de pucerons et j'aurais pas d'effets négatifs. Donc ça veut dire que je vais travailler l'espace que j'appelle naturel ou que je veux faire tendre vers le naturel en utilisant des techniques qui vont faire que j'aurai un équilibre écologique, alors tout relatif par rapport à ce qu'on peut avoir au cœur de la prairie, pour pouvoir l'entretenir. Et donc c'est dans ce sens où, avec cette mise en avant de la nature ordinaire, on va essayer de favoriser la biodiversité qu'on appelle ordinaire, la biodiversité en ville, elle existe. Après, je pourrais donner plus de détails, enfin, je pourrais donner plus d'exemples. Et dans le travail qu'on va faire dans l'entretien de l'espace public en général, on va favoriser le maintien de cette biodiversité, on va faire en sorte qu'elle se développe. Et on va essayer d'en faire notre allié, tant qu'à faire, pour pouvoir faciliter le travail. Et donc, juste, on a, pour finir là-dessus, ça veut dire qu'on a une évolution du métier de jardinier en ville ou du métier de jardinier de la ville, donc du fonctionnaire territorial jardinier à la ville. Au départ, le jardinier de la ville et des villes de France, c'était quelqu'un qui avait un savoir-faire horticole et qui mettait en place des massifs que tous les ans, ils changeaient. On artificialisait, on mettait des produits pour enlever tout ce qui nous gênait. Et puis, on avait juste le tableau fait avec des couleurs végétales. Alors qu'aujourd'hui, on doit reproduire, avoir un effet identique, ou en tout cas aussi flashy, aussi marquant par rapport à l'œil, par rapport aux couleurs. Mais en plus, dans la palette du jardinier, elle s'est ouverte avec des techniques qui sont liées à la nature. Et on va utiliser la nature pour faciliter notre travail et pour nous aider à avancer. Voilà.
Merci beaucoup. Donc on va se laisser environ 10-15 minutes pour discuter en petite table et aussi préparer des questions pour relancer le débat donc vers 19h15 à peu près. Voilà.
La Guérinière, c'est un quartier.
Et pourtant, ils ont encore plus de cyclistes.
D'accord, très bien. Et vous ?
Alors, on y va, si vous voulez bien. La petite récréation d'échange individuel est terminée. On va reprendre. Et dans l'attente que des gens interviennent, est-ce que les intervenants eux-mêmes ont la volonté de réagir ?
Donc, Étienne Debré, architecte et membre de la Maison de l'Architecture. Je voulais demander à Lucille, on a eu l'impression que, en particulier sur le fait que les stimulations sensorielles étaient fortes en ville, et moi j'avais l'impression qu'elles étaient aussi fortes à la campagne et que ça dépendait plus de l'état d'esprit et de l'ouverture de la personne qui écoute, aussi bien en ville qu'à la campagne.
Oui, donc je présente mes excuses si jamais j'ai pu, si certains ont compris que je mettais la ville au-dessus de la campagne, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai essayé de ne pas être dans ce point de vue. La difficulté simplement que j'ai eue, c'est que moi, je n'ai jamais travaillé sur ce sujet à la campagne, donc je n'ai pas de réel comparatif. Et c'est vrai que la seule chose que j'ai dit par rapport à une possible supériorité de la ville par rapport à la campagne, c'était l'accès aux services de santé psychologique et physique et culturelle, mais quand même, bon, ça, c'est un peu difficile de dire autre chose quand même. Après, la conversation qu'on a eue en fait entre nous était très intéressante, puisque quelque part aussi ça peut dépendre du lieu de naissance, et ça je l'ai déjà remarqué, c'est-à-dire que la sensibilité qu'on peut avoir à la ville et l'ouverture sensorielle qu'on peut avoir à la ville peut dépendre aussi de beaucoup de son histoire, et c'est idem à la campagne. Donc on peut faire l'hypothèse que moi, travaillant sur la campagne, j'aurais peut-être du mal à percevoir toute la multiplicité sensorielle de la campagne. Bref. Mais bon, c'était pas le sujet. Après, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Hélène Fouché. Alors, il y avait un premier point sur l'importance des espaces verts. C'était sur le fait que l'intérêt de l'espace vert, en fait, c'est qu'en général, c'est des espaces de mouvement. C'est-à-dire que soit on marche, soit la nature elle-même est en mouvement, et ça, en fait, facilite énormément les perceptions sensorielles. Donc, de fait, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est des espaces qui sont propices au bien-être. Et ça permet donc, par le mouvement, en fait, de nous aider à vivre donc l'instant présent. Voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment, l'instant présent, en général, est plus facile à atteindre, donc le bonheur, quelque part, dans les espaces verts. Voilà.
Bonjour, Jean-Paul Robidel, je suis enseignant. Deux, trois remarques. D'une part, je compte dans les plaisirs de la ville l'anonymat. Ça n'est pas qu'une contrainte. Deuxième chose, je suis toujours surpris par les couleurs de la ville en automne. Et je trouve après la campagne un peu fade. Et puis, dernière remarque, bon, il y a aussi les espaces verts actifs. Je pense aux jardins familiaux.
On pensait inviter un écolo de service pour être un peu réactif, mais apparemment, il n'y en a pas. Donc, non, mais quelqu'un qui est contre les lumières, la consommation électrique, je ne sais pas, les jardins domptés, les tailles des arbres excessives. Voilà.
Il y avait plusieurs questions. Donc il y a deux questions qui m'ont été posées au sujet des arbres. La première, c'est les feuilles, l'automne, c'est joli. Cours Montalivet, c'est magnifique. Pourquoi vous les ramassez? Alors, à côté de ça, régulièrement, récemment, on en a parlé avec l'élu, Cours Montalivet, il y a une piste cyclable. Il y a des gens qui l'utilisent pour aller au travail matin et soir. Et on a des réclamations parce que les feuilles, c'est joli, oui. Mais il y a des gens qui les trouvent jolies. Moi, je trouve que c'est joli. Mais alors, dès qu'il pleut, on se dit aïe, aïe, aïe. Parce que ça glisse et les gens nous disent attention, ça glisse, si je me casse la figure, la ville est responsable, etc. etc. Donc la difficulté dans la nature en ville, c'est de concilier le fonctionnement de la ville. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut de concilier la vie des gens en ville et les impératifs, aller au boulot et tout, et puis de concilier l'esthétique. Alors juste une remarque sur les feuilles, puis après on parlera de la taille des arbres. Les feuilles, la difficulté aussi, c'est que les feuilles, elles ne tombent pas quand on veut. Elles ne tombent jamais au bon moment. Moi, je rêve. Alors, en fait, disons qu'il y a d'un côté, laisser la nature faire, c'est sympa. Mais pour le fonctionnement des équipes, si on pouvait faire ça, et puis pouf, les feuilles tombent, on ramasse, et puis le lendemain, on fait ça, elles tombent et on ramasse, ce serait l'idéal. Parce que des fois, on a des équipes. Alors, je peux donner un exemple. Le week-end dernier, c'était le week-end du 11 novembre. Donc, il y a plein de cérémonies. Et puis, entre la mairie et le restaurant administratif, là, il y a le boulevard Bertrand, avec des superbes platanes, et les équipes ramassaient les feuilles. Et donc, je les ai vus en vers 13h, ils étaient tous à ramasser, efficaces et tout. Je me disais, ouais, c'est beau, ça va être propre. Et puis, dans la soirée, je suis passée, coup de vent, bam, toutes les feuilles, les autres feuilles sont tombées. Et à la limite, c'est là où on a la remarque d'habitants qui nous disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne font rien, et les feuilles ne sont pas ramassées. Alors que nos équipes sont passés, les ont ramassés et manque de bol, les feuilles ont continué de tomber. Donc c'est vrai que la nature en ville, à un moment, on a des remarques sur ces feuilles qui tombent. Alors moi, ce que je dis aux habitants, alors pas quand ils sont trop en colère, parce que des fois, c'est pas évident, c'est que le jour où elles ne tomberont plus, là, on aura des questions à se poser. Voilà. Mais c'est vrai que si, là, bientôt, il se met à pleuvoir et qu'on n'a pas eu le temps de ramasser les feuilles, pensez à nous. Quand je dis nous, c'est tous les agents qui sont sur le terrain, qui se font engueuler, injurier, parce que la ville ne fait rien. Voilà.
Et puis juste... Après, juste par rapport aux feuilles, moi, je trouve qu'il y a aussi du plaisir. Moi, je vais en vélo tous les jours au travail. Pardon, excusez-moi, Fabien Le Chevalier, je suis agent de développement social à Venoy. Et moi, je vais au boulot tous les jours sur les pistes cyclables et j'adore rouler dans les feuilles. Je trouve ça, c'est un plaisir aussi, c'est du bonheur, comme on parlait du bonheur dans la ville, mais c'est un bonheur de rouler dans les feuilles, surtout qu'en ce moment, il pleut pas du tout. Donc, du coup, on peut laisser les feuilles dans les rues, ça ne gêne personne. Enfin, je trouve que là, il pleut pas en ce moment, donc on peut rouler dessus, il n'y a pas de risque de glisser. Enfin, voilà, donc après, mais c'est très temporel, en ce moment, il pleut pas, donc voilà.
Et puis, il y a juste une chose, c'est que, effectivement, donc les feuilles, elles tombent, quand il pleut, c'est la galère, mais il y a le vent aussi. Donc des fois, elles vont être toutes cantonnées sur la piste cyclable parce que le vent sera dans ce sens-là. Ou elles vont être... Alors là aussi, on n'arrive pas à dompter la nature. Et puis bon, la difficulté, en fait, alors plus sérieusement, c'est que je suis heureuse d'entendre ce que vous venez de dire. Et puis ça me consolera quand on aura des appels, il faut nettoyer la piste cyclable, je suis tombée avec mon vélo et tout. Et c'est vrai que la difficulté, c'est qu'on entend plus les gens qui râlent que les gens qui... voilà. Alors donc de temps en temps, ça fait du bien d'entendre des gens qui nous disent laissez les feuilles. Et c'est vrai que et juste pour finir, quand je sais plus avec qui je parlais des feuilles récemment, Et il me disait, je suis sûre que ce week-end, il y a plein de gens qui sont allés en forêt de Grimbault, donc qui est un territoire ville de Caen. Ils ont marché, ils ont shooté dans les feuilles, ils les ont fait voler partout, c'était un plaisir. Et puis ces gens-là, bah, aujourd'hui, ils sont dans Caen, ils ont des feuilles à leurs pieds, et là, c'est pas du tout les mêmes sensations.
Donc moi, c'était juste une remarque, parce que donc, oui, Régis Culeron, donc enseignant. Et c'était la remarque parce que si je compare Caen à ce que j'ai pu voir à Berlin. Et à Berlin, j'ai eu une nature qui était beaucoup moins maîtrisée. Et j'ai eu c'était un bonheur justement parce que les arbres étaient beaucoup moins taillés, les feuilles n'étaient pas ramassées et j'avais vraiment l'impression d'avoir de la nature en ville.
Les Allemands ont un rapport à la nature, le romantisme allemand est très différent du romantisme français. Mais même on peut remonter à un côté religieux, les protestants, les catholiques n'ont pas le même rapport à la nature. Après, nous, on va dire que notre génération est plus à même de comprendre la culture des Berlinois que peut-être d'autres générations. Mais on est vraiment là. Là, c'est très culturel. Et heureusement qu'il y a des différences culturelles.
Ça fait plaisir aussi. Quand même.
Ça fait plaisir aussi.
Ça rejoint la remarque sur l'herbe et sur la façon de marcher sur les pelouses ou pas. Ça, c'est très culturel. C'est très spécifiquement français. Et ça vient de la tradition Haussmann-Alphand, des squares bien dessinés avec des petites bordures métalliques pour qu'on n'aille pas marcher dessus.
Oui, exactement. Alors, je peux peut-être compléter sur la nature en ville et la comparaison avec Berlin. Donc, depuis 6 ans maintenant, on travaille sur la réduction des herbicides chimiques. Et donc, ça veut dire que, de fait, l'herbe pousse sur les trottoirs. Et on est passé d'une appellation « mauvaise herbe ». Alors, nous, en interne, on ne parle plus de mauvaise herbe. On parlait au départ de mauvaise herbe. Après, on a parlé d'herbe indésirable. Et maintenant, on parle de flore spontanée. Et on essaye d'inculquer aux gens l'idée que, finalement, si l'herbe pousse sur les trottoirs, c'est parce que la nature a est extraordinaire, et si extraordinaire, et fait qu'une petite graine peut se loger dans une petite interstice de trottoir sur laquelle il y aura un substrat, parce qu'il y aura un peu de poussière et il y aura un peu d'eau, et après l'hiver, après la levée de dormance, le grand froid, levée de dormance, et pouf, on va avoir un coquelicot qui va apparaître. Alors quand c'est un coquelicot, c'est joli, quand c'est plus un pâturin, où ça va être moins intéressant pour les gens. Donc on travaille là-dessus, et c'est vrai que, alors à Caen, moi je ne suis pas normande, je vais peut-être avoir toute la salle contre moi, mais c'est vrai que il y a cette culture de la ville propre au carré, et j'ai envie de dire, les Canets ont été peut-être mal habitués et on a du mal à faire évoluer la perception de l'espace public avec à faire tolérer. Alors, c'est quand même dingue parce qu'on arrive à dire à faire tolérer la nature en ville. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une nature qui va être bien acceptée, bien vécue par les habitants. Mais dès qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas à sa place, une herbe qui est sur un trottoir, elle n'est pas à sa place, là, on parle de tolérance à la flore spontanée, de tolérance à la mauvaise herbe. Voilà.
Moi, j'avais une question quand même pour monsieur Lapré-Santin. Ah, ouais. En fait, je voulais savoir si, si ça ne vous est pas arrivé, en fait, dans un projet avec votre article là, où c'était que sur le visuel, d'avoir des raisons autres que visuelles qui fasse que vous refusiez. Je prends un exemple que j'invente complètement, une porcherie qui s'installe en face, à côté d'un château, par exemple. Même si le bâtiment est joli, l'odeur de la porcherie, est-ce que ça peut rentrer en compte ou c'est pas possible ?
Non, c'est absolument impossible de refuser au motif de l'odeur
D'accord.
ou de l'usage. On se prononce sur l'impact visuel, c'est le champ de visibilité, ça c'est très précis.
Ouais. Donc,
c'est-à-dire qu'on a, oui, quel que soit l'usage, bien sûr, oui. Non, mais par contre, ce qu'on essaye d'exprimer effectivement, ou de regarder, c'est la qualité d'un espace. Il faut considérer que un espace, même qui a priori est indifférent, a lui-même des qualités. Donc, lorsqu'on est face à un monument historique, on essaye autant que faire se peut de dire, mais quelles sont les qualités ? Et de manière ensuite à s'intégrer au mieux à l'environnement du monument historique. D'accord. Donc on est quand même toujours dans le qualitatif. Mais l'architecte des bâtiments de France, c'est vraiment un acteur, c'est pas le seul, loin de là. Il y a un maître d'ouvrage, il y a un maître d'œuvre, et puis un tas de personnes, les élus, j'en ai parlé, qui comptent énormément dans l'aménagement du territoire. On œuvre quand même pour l'aménagement du territoire, pas uniquement pour la défense d'un environnement, mais pour l'aménagement du territoire. On ne peut pas donner un avis défavorable parce qu'on va faire une porcherie. Sauf si on interdit expressément une activité agricole.
Ouais, voilà,
mais dans le cadre d'un document d'urbanisme, jamais dans le cadre d'un avis de l'architecte des bâtiments de France.
Colette Marie, je suis étudiante. Justement, en tant qu'ABF, vous avez le dernier mot pour bloquer certains points de projet qui pourraient être dérangeants justement visuellement par rapport à un monument historique. Quand vous bloquez, vous essayez sûrement d'être objectif. Enfin, vous avez quand même une grande part de subjectivité et qui est liée à qui tient à votre histoire personnelle, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que ça empêche une certaine diversification des stimulants visuels justement? Parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui ont d'autres... d'autres perceptions de ce qu'est la beauté, de ce qu'est une belle architecture, ou est-ce que justement l'institution des bâtiments de France, c'est pas un petit peu trop classique sur certains points?
Non, mais je vais répondre quand même. Ouais, déjà, on n'est pas seul. Dans le circuit d'instruction d'un dossier, faut comprendre ça. La demande d'autorisation, elle est déposée auprès du maire. Donc c'est le maire qui va instruire son dossier et c'est le maire qui autorise au final le projet. L'architecte des bâtiments de France, dans ce circuit administratif d'instruction d'un dossier, il donne un avis. Alors c'est vrai que l'avis peut bloquer, mais l'autorité compétente en matière d'urbanisme, c'est le maire. Ça, c'est la première des choses à savoir. Donc on intervient, on n'est pas seul à examiner un projet, on n'est pas le seul à avoir son mot à dire. Donc idéalement, c'est vrai qu'on cherche à instruire les dossiers en association, en collaboration avec les élus notamment. C'est ce que j'appelle l'intérêt public. Alors moi, je défends un intérêt public qui est celui de la co-visibilité ou de la préservation des abords d'un monument historique, mais ce qu'on essaye de faire émerger dans les discussions, c'est l'intérêt public. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement et de travail de l'architecte des bâtiments de France aujourd'hui. Donc, quand vous dites, effectivement, on peut refuser certaines esthétiques, c'est sûr que le refus, il ne va pas être, autant que faire se peut, porté par le seul architecte des bâtiments de France. Et puis, de toute façon, l'architecte des bâtiments de France ne fait pas l'architecture. C'est quand même l'architecte, c'est le maître d'œuvre qui va la proposer.
Oui, donc, Gilles Daucher, architecte. Alors, moi, c'est vrai que j'ai subi de nombreuses fois les fourches codines des ABF. C'est une fois sur deux. Donc, je parlais tout à l'heure d'harmonie en fait, des centres-villes, donc des centres historiques. Moi, pour avoir fréquenté donc, de nombreux architectes des bâtiments de France, ce qui est important, ce n'est pas de croire qu'ils nous demandent de faire du pastiche d'architecture médiévale ou 18e siècle. Ce qui est important, et ce qu'ils nous disent à chaque fois, c'est qu'on doit, dans un centre-ville historique, c'est surtout avoir une harmonie en fait, de l'ensemble. On peut faire une architecture très très contemporaine, avoir une très grande créativité. Il y a des interventions, on ne peut pas en citer comme ça, mais et je pense que c'est ça. Et avec un dialogue souvent, nous, on essaye justement de travailler en amont, et je pense que j'invite, alors ce n'est pas toujours évident parce qu'ils sont souvent débordés, mais si on travaille en amont avec les architectes des bâtiments de France, ce sont des gens qui sont relativement intelligents et très... Non, mais qui ont une très grande culture de l'architecture contemporaine et historique et qui savent justement très bien lier une grande qualité architecturale très contemporaine, des fois avec des bâtiments anciens. Donc il ne faut pas penser que ce sont... Alors c'est vrai que quand ils disent non, c'est non. Donc il vaut mieux un petit peu travailler ensemble avant, mais on peut faire des choses très contemporaines et avoir une très grande créativité à partir du moment où on respecte quand même l'environnement dans lequel on est. Que ce soit un environnement historique, que ce soit la nature, que ce soit un paysage. Mais l'important, c'est de respecter l'environnement dans lequel on est.
Non, mais pour aller dans le sens de la demoiselle, c'est-à-dire que je pense que tous les architectes des bâtiments de France ne se comportent pas de la même façon. Et donc, voilà, on a la chance localement d'avoir une écoute quand on veut construire un projet et qu'on peut le construire vraiment en lien avec la loi et aussi avec le regard de l'architecte des bâtiments de France, mais ce n'est pas toujours le cas. Et moi, je vais te laisser intervenir, Lucille, mais c'est aussi par rapport à des matériaux. Il y a des matériaux qui font crier au loup et les architectes des bâtiments de France et les riverains. Et voilà, et peut-être que... Voilà, c'est peut-être un peu ce genre de choses, en fait. Mais malheureusement, ce n'est pas tant l'architecte des bâtiments de France que la réglementation qui est édictée avant que lui intervienne, qui souvent empêche de travailler avec des matériaux contemporains.
ou économiques. Ou,
Et puis, on n'a pas de solution. On interviendra toujours au cas par cas, au projet par projet. Et à mon avis, un bon architecte des bâtiments de France donne un avis vraiment au cas par cas. Son rôle, c'est pas de faire du règlement, c'est à l'élu, dans le cadre de son document d'urbanisme, d'élaborer le règlement. Et ce règlement, il est accepté après enquête publique. Donc il a une légitimité démocratique qui, a priori, s'impose quand même également à l'ABF. Mais c'est vrai que un projet, comme n'importe quel concepteur, il va faire un projet au cas par cas. Il ne va pas refaire systématiquement la même maison, le même immeuble. Donc, de la même manière, l'ABF peut réagir différemment selon le projet, selon le site, etc.
Oui, alors non, moi je voulais juste dire que, enfin, l'intervention de ma chère voisine posait peut-être aussi la question de la définition de l'harmonie. Et je pense qu'il y a aussi ça derrière. Et je sais vrai que derrière l'harmonie, il y a quand même une grande marge de subjectivité. Voilà, il n'y a pas de définition vraiment d'harmonie. L'harmonie de Le Corbusier n'est pas la même que l'harmonie de Vauban. Voilà, exactement.
Non, c'est pour continuer à réagir par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai surtout l'impression qu'il y a une différence entre lorsque c'est du bâti public et lorsque c'est du bâti privé. Lorsque c'est du bâti public, on autorise certaines choses, alors que si on prend les mêmes choses pour du bâti privé, c'est interdit.
Avec ou sans architecte.
Vincent Savetti, architecte.
C'est le bon.
Non, attendez, on a l'impression que vous voudriez trouver une solution qui contenterait tout le monde. Alors là, vous êtes jeune, hein, mais il n'y a pas de solution qui contente tout le monde. C'est-à-dire que le projet qui ferait consensus, à mon avis, c'est un projet qui n'existe pratiquement pas. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est devenu tellement neutre que finalement, on ne l'a pas vu. Et ça a été beaucoup le cas d'une architecture banale et ultra banalisée qui a... complètement assombri et endormi nos villes. Donc, dans certains cas, on dise les responsabilités qui ont été prises par les uns et les autres et donner un bâtiment qui ne me plaise pas. Mais heureusement, moi, je suis très content qu'un de mes bâtiments ne plaise pas de temps en temps. Je préfère qu'il plaise. Mais c'est évident qu'à certains moments, ça ne plaît pas. Ce qu'il faut condamner, je crois, dans l'acte d'architecture, c'est les gens qui ne travaillent pas. C'est-à-dire, je pense que quand il y a un vrai travail de conception, ce travail de conception est capable d'engager un dialogue avec des élus, avec éventuellement des habitants, avec des riverains, avec un ABF et ainsi de suite. On est souvent confronté à des projets de certains de nos confrères qui sont considérés comme des œuvres au sens strict du terme. Je ne crois pas à l'œuvre de l'architecte comme architecte démiurge. D'accord ? C'est-à-dire celui qui saurait tout. Je pense qu'un projet d'architecture, c'est quelque chose qui doit établir un dialogue avec son environnement, avec les règlements et avec tout ça. Et je joue un peu aussi le rôle de temps en temps d'architecte conseil. Et dans ce métier d'architecte conseil, je suis souvent confronté à des confrères qui disent, quand on dit mais on n'est pas tellement d'accord sur le fait de s'aligner à tel endroit, ils disent je suis en train de toucher à l'intégrité de mon œuvre. Or au fond, je trouve ça extrêmement prétentieux. Et je trouve ça aussi d'une grande vanité. C'est-à-dire que la trace du concepteur doit être là, mais on est dans le travail de l'architecture sur des œuvres qui sont tout à fait particulières, puisqu'elles devront être partagées par nombre de gens, habitées, pratiquées, et ainsi de suite. Ça demande une grande modestie pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et surtout, elles vont dépasser complètement cet artiste, entre guillemets, parce que je pense qu'on n'est pas tout à fait des artistes, qui est complètement dépassé par son œuvre. Moi, j'ai un âge assez avancé maintenant, et donc les projets que je construis ne seront pas finis de financer, ne seront pas finis de rembourser, quand je serai sans doute en train de manger les pissenlits par la racine. Donc ça donne toute la dimension de notre travail. C'est-à-dire qu'on est complètement dépassé à la sortie par le travail qu'on a à fournir et par le produit fourni. Et donc, il faut accepter la temporalité des décisions prises. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut prendre des décisions et il faut s'arrêter de travailler, il faut s'arrêter de réglementer et il faut décider pour construire, sinon on ne construirait jamais. On pourrait dire que le projet idéal, ce serait celui d'avoir quelqu'un qui commande un bâtiment à fond perdu, enfin tout ce qu'on veut, et sans délai. Mais je pense qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas de projet. Ce qui fait le projet, c'est l'urgence de la décision. Ce qui fait le projet, c'est le besoin de décider, c'est le besoin de répondre à une commande, c'est le besoin de loger, c'est le besoin de tout ça. Et forcément, cette décision va se prendre dans une temporalité qui ne va pas forcément faire le projet idéal. On est dans des moments magiques, quelquefois, où on arrive à toucher l'idéal. Mais ça, ce n'est pas fréquent.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'aimerais juste revenir sur quelque chose qu'on a touché du doigt tout à l'heure avec votre intervention, Madame Fouché, quand vous avez parlé, par exemple, du parvis de la mairie et du lien entre l'architecture et les espaces verts. Moi, qui suis un usager quotidien de l'université, j'ai toujours une réflexion qui consiste à penser que on a une architecture assez massive à l'université et des espaces verts assez plats, peu luxuriants, qui sont plutôt visuels. Autrement dit, qu'on pourrait se poser la question de savoir si le bonheur ou la perspective ne mérite pas une cohérence pour qu'il n'y ait pas de gêne. C'est-à-dire, est-ce qu'à l'échelle de la ville, on ne peut pas considérer qu'une ville qui est très quadrillée, qui est très structurée, serait plus à même d'organiser aussi les espaces verts de manière très structurée et qu'il est difficile de concevoir qu'il y ait une forme de luxuriance ou de libre cours aux espaces verts parce que les formes bâties sont, elles, très... portée sur une forme d'uniformité.
Qu'est-ce qui est là avant, le bâtiment ou la nature? La ville, elle est construite. Elle est... Et donc, pour développer la nature, il faudrait casser des bâtiments. Donc, voilà.
Non, mais par exemple, mais par si contre, on prend l'exemple de la fontaine qui est entre l'université et le château.
Ça n'est pas
un non, mais c'est un bon exemple de réalisation qui est entre le paysage et le végétal et l'architecture. Mmh. Et où on a, semble-t-il, pas voulu se positionner par rapport à une architecture monumentale de part et d'autre. Mmh.
Alors, je suis pas très à l'aise pour parler de l'esplanade de la paix. Hein. Moi, je suis arrivée, le projet était en train d'être mis en œuvre. Donc, non, mais je sais pas trop quelle a été la conception du projet. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions aujourd'hui sur cet espace-là, parce que nous, on l'entretient et on essaye de l'entretenir de façon propre. Par exemple, de l'eau qui coule comme ça, on est en Normandie, l'eau est très calcaire et on a plein de problèmes de voilà. Donc, ça nécessite des traitements, des nettoyages spécifique et donc il y a des questions qui sont posées derrière. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans les espaces tels qu'ils existent actuellement, on essaye de les retravailler et de les refaçonner. Avant, c'était des espaces à regarder, on passe vers des espaces à vivre. Parce que la ville bouge autour, je pense, rive droite, là, je pense, tout ce qui est grâce de Dieu, là, il y a pas mal de projets. On a un espace vert de proximité. Alors, on ne peut pas parler de parc, on ne peut pas parler de square, voilà. C'est un espace vert avec des jeux d'enfants, des bancs. Et puis, sur ces espaces-là, on va nous demander de les retravailler, de les embellir et puis de prendre en compte à la fois l'usage qui existe parce qu'il s'agit pas de casser quelque chose qui fonctionne bien, mais du coup de profiter que autour ça va changer, du coup pour accompagner ça et peut-être retravailler les ouvertures, etc. Donc ça, on va travailler avec nos collègues de l'urbanisme, avec des architectes extérieurs aussi qui vont intervenir. Sachant que nous, j'ai envie de dire, au niveau des espaces verts, souvent on arrive après, il y a la grande ligne qui est faite et ça va être la petite touche finale. Je ne connais pas de cas où on a conçu l'espace et on a bâti autour. Bon, il y a un autre exemple, alors là on en parlait tout à l'heure en aparté, c'est vers Venoy. C'était un espace qui était avant mis à disposition d'un club de boules et qui n'était plus utilisé. Et les habitants du quartier ont dit, mais là, il y a un truc bien, on veut faire quelque chose. L'élu de quartier nous a demandé de venir. Et puis, il y a eu un échange avec les habitants et on leur a dit, bon, alors, vous voulez faire ça, OK, mais attention, là, si vous voulez des fleurs et puis que vos enfants jouent au ballon à côté. Et puis, on a co-construit le projet. Et là, on est parti d'un espace qui existait et on a travaillé avec eux pour le faire évoluer et que ça corresponde à la façon dont ils voulaient le vivre. Sachant qu'après, il y a des questions financières et ils voulaient un super jeu d'enfants énorme et tout, puisque dans les espaces verts, il y a aussi l'accompagnement avec les jeux d'enfants. Et quand on leur a dit les prix d'un jeu, ils ont dit, bon, on va peut-être attendre. La priorité, c'est l'aménagement de l'espace et après, on verra après pour le jeu. Donc ça, c'est des exemples de co-construction. Mais on a un espace dont la vocation a changé et du coup, on l'aménage. Voilà.
Nathalie Lemarchand, ethnologue. Moi, il me semble quand même qu'on oublie à chaque fois les choix politiques aussi. On parle de paysage, d'architecture, mais derrière tout ça, il y a bien des personnes, ou en tout cas des entités qui commandent les choses. Vous disiez, madame, qu'avant, les gens n'avaient pas... en tout cas, vous venez d'une autre région et vous disiez qu'en Basse-Normandie, en tout cas... tout du moins à Caen, les habitants voulaient, voulaient des espaces assez carrés, assez artificiels. Mais longtemps, quand même, on a eu une municipalité qui n'était pas tellement d'avant-garde. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, effectivement, ça correspond aussi à une volonté politique. L'espace correspond quand même, enfin l'espace construit ou non, correspond aussi à une volonté et des désirs mis en application dans ces espaces.
Alors juste, j'ai pas dit que les gens avaient été habitués à des espaces carrés, enfin ou artificiels. Ce que j'ai dit, c'est ils avaient l'habitude d'espaces entre guillemets au carré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse et tout est bien délimité. Et donc l'idée, c'est de dire que il y a cette habitude d'une ville bien entretenue, il n'y a pas d'herbe sur les trottoirs. Et c'est vrai que il y avait une tradition. Alors ça, il y a une commande politique. C'est vrai que on a eu un changement de municipalité avec d'autres attentes. Et on nous a demandé d'aller plus vite et du coup d'avancer davantage sur la réduction de l'utilisation des pesticides. Alors il y a la législation qui évolue, il y a la réglementation qui nous met la pression, et puis on a des élus là qui ont vraiment envie d'avancer dans ce sens. Mais c'est vrai que à Caen, alors je dis ça par rapport à d'autres vécus et d'autres villes, hein, je donne un exemple tout bête. À Caen, on a commencé à penser à réduire les phytos en 2006. L'année de référence, c'est 2005. À Nancy, à Besançon, en 2000, ils avaient déjà arrêté d'utiliser des herbicides chimiques dans la ville. C'est vrai qu'à partir du moment où les habitants ont eu l'habitude de ne pas voir un bout d'herbe qui dépasse, la difficulté, c'est que la mauvaise herbe, on va parler de mauvaise herbe, ça fait sale. C'est-à-dire qu'on parle de notion de bonheur, mais il y a aussi, tout est relatif par rapport à la beauté, la propreté, la saleté. Des fois, on a des habitants qui nous disent « la ville est sale ». Et quand on discute avec eux, alors vous me dites que votre rue est sale, pourquoi elle est sale ? Pour moi, si elle est sale, ça veut dire qu'il y a des papiers par terre, ça veut dire qu'il y a des mégots, des choses comme ça, et que l'agent qui s'appelle agent de nettoiement ou balayeur n'a pas fait son travail. Or, quand on fouille les choses, nous, quand on va voir, on ne voit pas de papier par terre, c'est nickel. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a un sac poubelle qui n'a pas été présenté au bon moment, et donc ça fait sale. On voit qu'il y a des mauvaises herbes, alors on va parler de mauvaises herbes, où il y a de la flore spontanée sur le trottoir. Alors effectivement, si elle est haute comme ça, là, ça fait négliger. On voit qu'il y a des tags, et du coup, ça fait sale. Et c'est vrai que cette notion de propreté, alors entre guillemets au carré, elle est très inculquée chez les gens, et on a encore des réclamations, parce que c'est des réclamations. On a des gens qui nous écrivent et qui disent « la ville n'est pas entretenue ». Voilà. Et alors la question, c'est ça, c'est quoi une ville entretenue ? C'est quoi une ville négligée ? Jusqu'où doit aller la tolérance à la flore spontanée ? Voilà, c'était plus ça. Alors les élus actuels impulsent et disent « de toute façon, on n'a pas le choix ». La réglementation fait que les produits qu'on utilisait il y a 10, 20, 30 ans et même… Il y a eu des nouvelles interdictions, même il y a 5 ans. Maintenant, on n'a plus le droit de les utiliser. Donc, de toute façon, on est obligé de trouver d'autres méthodes. Voilà. Et les autres méthodes passent par la tolérance à la flore spontanée.
Anne-Marie Piollet, je vais continuer un peu sur les espaces verts et peut-être un petit aspect écolo, puisque ça a été regretté tout à l'heure. Ce que je trouve dommage en ville, et à Caen, c'est un peu le cas, en dehors des grands espaces comme la colline aux oiseaux ou la vallée des jardins, c'est que les plantations sont renouvelées en permanence. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne serait pas possible, pour avoir quelque chose de plus naturel, d'avoir une base ou une grosse partie de la base qui soit des choses qui restent en place, comme dans un jardin. Quand on a un jardin chez soi, on ne s'amuse pas à renouveler les plantations en totalité 4 fois par an. Moi, ça me fait toujours mal au cœur quand je vois des plantes arrachées alors qu'elles sont encore belles, pour en mettre d'autres parce qu'il faut prévoir la saison d'après, etc. Je trouve que ça fait beaucoup de dépenses, beaucoup de pertes, et ça perd cet aspect naturel, en fait.
Alors, vous avez raison, ça fait beaucoup de dépenses, beaucoup de travail. Et alors, donc, j'ai plusieurs endroits à vous indiquer. Vous regardez, alors, c'est Place de la Mare. Il y a un massif qui vient d'être aménagé, qui vient d'être changé. Avant, c'était des annuels, des bisannuels qui étaient changés deux fois par an au minimum. Là, on travaille sur ce que nous, en interne, on appelle des massifs durables. Durable au sens où on les met une fois en place et après une bonne fois. Alors donc il y a un gros boulot au début, on attend, il faut que le massif se développe, et donc c'est des vivaces fleuries, hein, c'est des arbustes et des vivaces fleuries, on complète avec des bulbes, éventuellement on continue à mettre quelques annuels, bisannuels pour faire la touche finale. Donc Place de la Mare, il y a un nouveau massif qui vient d'être mis en place, c'est un massif durable. Il y en a un nouveau qui a été mis, alors devant une partie du massif d'annuels et de bisannuels devant la préfecture et transformé en massif durable. Dans chaque quartier de la ville, là, ça y est, c'est parti. On a une première tranche de massif qui a évolué. Alors, on ne s'est pas encore attaqué à l'hôtel de ville, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes qui ne mettent plus d'annuels et de bisannuels et qui jonglent avec les bulbes et les vivaces fleuries. Donc, on y arrive petit à petit. Mais ça aussi, c'est un changement de culture. Alors, pour l'instant, les habitants, ils n'ont pas trop réagi parce que pour eux, c'est toujours pareil, la notion de beauté. Enfin, tous les habitants n'ont pas forcément l'œil pour dire « Ah ben là, c'est pas une annuelle, c'est une vivace ». Et donc, on passe autour d'un rond-point. Il y a des ronds-points. Ben, le rond-point devant le rond-point du boulevard de Tolle, là, devant la Poste, pareil, il y a une partie, c'était des annuels et des bisannuels. Et là, c'est des vivaces fleuries. La partie qui est côté vers le stade d'Ornano, pareil. On passe en voiture autour. On ne fait pas attention et on ne voit pas la différence. On a ce sentiment de joli, c'est fleuri. Enfin, il y a de la couleur. Et alors, des fois, moi, je fais trois fois le tour du rond-point pour voir ce qu'ils ont mis exactement, ce qui a été mis. Mais ça fait partie des évolutions qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Il y a ça. Et puis, il y a les bulbes qu'on est en train de planter pour une explosion au printemps, avec un autre mode de fleurissement.
Alors non, moi je voulais juste consoler Hélène Fouché, le fait de faire attention aux objets multisensoriels désagréables, en général, illustre seulement un état émotionnel négatif de la personne. Voilà, c'est-à-dire que si on est bien dans sa tête, en général, on ne vient pas râler pour un papier par terre ou un mégot. Voilà.
Alors, juste une petite anecdote. Donc, en fait, le problème, c'est que ces personnes qui ne sont pas bien dans leur tête, elles l'expriment et elles l'expriment très fort. Et donc, ce n'est pas facile de leur répondre. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, on constate que l'été, quand toute la nature est belle, quand c'est sympa, l'herbe a arrêté de pousser, il fait beau, il fait sec, donc les mauvaises herbes se sont stoppées, on est un peu tranquille. Et ben il y a des petites, alors souvent c'est des mamies qui passent, qui nous téléphonent, et c'est toujours les mêmes tous les ans, l'été, elles se manifestent, et donc je pense qu'elles doivent se sentir seules. C'est l'été, tout le monde est parti, et donc du coup il y a l'accueil de la DECV a un rôle social, et la personne qui est à l'accueil, qui a vraiment des qualités d'écoute, elle me dit, là c'est la dame, tous les ans elle appelle, on lui dit de passer, donc elle vient, on lui donne de la doc, et du coup on répond à sa question, on essaye de répondre à la réclamation, mais en même temps on essaye de... Voilà.
Ça veut dire que là, purement et simplement, vous contribuez à leur bonheur et on revient vraiment sur le cœur du sujet, ce qui boucle complètement la boucle à une heure où elle doit être bouclée. Mais avant qu'on se sépare, on va donc donner la parole. Marie-Pierre, je te laisse la parole.
Parce qu'on a une équipe d'universitaires algériens, en fait, qui est parmi nous ce soir. Ils viennent d'Annaba, en Algérie, à l'est de l'Algérie. On leur a proposé pas de nous faire une synthèse, mais de nous donner leur point de vue d'Algérie pour enrichir un peu et s'ouvrir au-delà des ronds-points de Caen. Voilà.
Alors, je suis Madame Bourmis, donc Anissa, université donc de Annaba, Algérie. Alors, et on est aussi dans le cadre d'un accord programme justement avec une équipe ESO donc de l'université de Caen. Et justement, notre accord programme aussi, ça s'intitule « Urbanisation triomphante, inégalité spatiale, sociale et environnementale ». La définition du bonheur, c'est compliqué, c'est très complexe. Et cette complexité va dériver de la complexité elle-même des liens qui se tissent entre les personnes et l'environnement urbain, et aussi avec les relations avec les acteurs de la ville. Je dirais aussi que cette complexité dérive de l'état d'esprit des personnes donc qui vivent ou bien qui pratiquent la ville, des histoires et des parcours individuels. Il y a aussi une diversité des perceptions, des états émotionnels, des effets très diversifiés des cadres de vie sur les personnes. Ce que j'ai remarqué, c'est quand même il y a une série de questionnements par rapport donc à cette réunion. C'est vrai que moi, au début, j'avais réagi aussi pour dire bonheur, bien-être en ville et la campagne. Alors, c'est sûr que ce n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes exigences, certes. On ne l'exprime pas de la même manière, mais c'est sûr que malheur, bonheur, je pense qu'il existe à tous les niveaux, que ce soit dans les pays développés ou sous-développés, il y a cette notion qui va apparaître. Pour le même lieu, la même ville, probablement le sentiment de bien-être et de bonheur va être différent entre intérieur et extérieur. Est-ce que je peux être bien chez moi, mais être très mal en ville, dehors? Alors, je dirais aussi, est-ce que à chaque fois qu'on intervient pour l'intérêt public, est-ce que forcément on pourra assurer le bonheur pour le maximum de personnes? Et là aussi, ça se pose, parce que je dis, bon, intérêt public ou bien préservation des monuments pour, j'allais dire, assurer la mémoire, bien sûr, des sociétés, mais est-ce que la population, vraiment, on va agir sur son bonheur? Autre questionnement, là, en réalité, ou bien, j'ai remarqué qu'il y aurait donc une grande difficulté d'identifier donc les influences positives et négatives de la nature sur le bien-être et le bonheur des personnes en raison des grandes des subjectivités, alors des groupes et des individus, des diversités culturelles, mais aussi des choix et des options politiques, aussi des niveaux de développement socio-économique et culturel des pays, des régions, mais aussi des villes. Si on devait terminer en définitive, savoir comment se mettre donc ensemble pour vivre ensemble et avoir plus de bonheur et ou bien de bien-être. Je vous remercie.
Bramia Khaled de l'Université d'Annaba. Je suis géographe de formation. Par rapport à, en fait, à l'intervention au sujet d'aujourd'hui, j'ai été un peu surpris par le bonheur dans la ville. Elle est pour moi plutôt une question individuelle. On ne peut pas la circonscrire dans un espace géographique comme la ville ou la campagne. Donc on peut être heureux, avoir le bonheur un peu partout. Donc si l'on soit dans la ville ou dans la campagne, c'est qu'il doit y avoir des éléments culturels qui justifient en fait notre bonheur ou notre malheur. Si par comparaison en fait au bonheur d'un Algérien moyen, il est différent. Il n'a pas le même niveau de débat. Il n'a pas les mêmes préoccupations que vous avez maintenant. Maintenant, vous parlez en fait des feuilles qui tombent et tout. Oui. L'Algérien, c'est plutôt le bonheur dans la ville en fait d'un Algérien, c'est l'accessibilité aux services. C'est comment se soigner. C'est voilà, avoir un logement. C'est le souci majeur de 90% des... Voilà. Donc, la santé, l'éducation, ce sont pratiquement tous les services de tous les jours, quoi. C'est ça, le bonheur d'un Algérien. Et puis, il y a d'autres éléments aussi qui contribuent à son bonheur. Comme vous le savez tous, l'actualité, en fait, internationale, hein, donc, elle dépasse l'actualité algérienne, elle dépasse plutôt les frontières de l'Algérie. Nous avons vécu dans beaucoup de traumatismes, hein, économique, culturel, politique, guerrier même. Et donc voilà, le bonheur d'un Algérien, c'est de vivre dans la paix. C'est de pouvoir sortir le soir. Donc le bonheur, en Algérie, il a un autre sens. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas une préoccupation, si vous voulez, environnementale. L'Algérien n'est pas complètement déconnecté de cette beauté, de la beauté de la nature. Seulement, le moment n'est pas pour, en fait, s'occuper de la verdure, n'est pas pour s'occuper des couleurs, n'est pas pour s'occuper des odeurs. On retrouve ce sens-là, on le trouve dans les textes. La législation algérienne, elle est très, très riche en matière, si vous voulez, de textes, hein, de préservation du patrimoine et de préservation de l'environnement. Et nous avons pratiquement, hein, je peux l'assurer, que nous avons pratiquement les mêmes textes, avec le même niveau d'exigence. Sauf que dans la pratique, c'est différent. L'espace vert en Algérie, c'est pas le... Vous avez la formule de regarder et vivre. Chez nous, il faut le vivre. Nous le vivons. Parce que pour le protéger, ben, on est obligé de faire une clôture pour le voir, quoi. Pour le préserver, ben, c'est la clôture qui le préserve. Cet aspect-là de vivre l'espace, ben, il vient un petit peu de notre culture, de notre façon de voir les choses. Ben, 90% des Algériens sont des ruraux, ne sont pas des citadins. Donc la nature, c'est de vivre dans cette nature et non pas de la regarder. Donc on piétine bien l'espace vert. Mais je dirais aussi que le bonheur, tel que je l'ai bien saisi, il est évolutif. Il n'est pas, figé. Donc il est évolutif parce que si on prend le bonheur de l'Algérien de 1962, ce n'est pas le même bonheur que nous avons maintenant. Nous avons bien d'autres, si vous voulez, d'autres besoins, d'autres aspirations. Et nous aspirons, bien sûr, à vivre, si vous voulez, dans le même niveau que vous avez, avec les mêmes soucis d'espace vert. Parce qu'actuellement, depuis 5 ans, il y a un programme d'amélioration urbaine, et aussi de préservation et de restauration des monuments historiques, des chantiers colossaux un peu partout en Algérie. Et je pense qu'il y a un souci gouvernemental d'améliorer, madame, le bonheur des Algériens.
Mais merci, c'était plus qu'un point de vue, c'était une synthèse en fait, donc merci beaucoup. Il nous reste, donc ça se termine, des gens à remercier, donc les intervenants pour leur contribution au débat, tous les trois. Ronald Minot qui est l'ingénieur du son et qui a bien fait son travail. Anne Lacheret qui est l'infographiste de l'université et qui a fait l'affiche comme toutes les affiches des cafés de la ville. Le patron du bistrot du palais. Et tout le public pour sa participation. Et enfin, pour terminer, le prochain Café de la Ville aura lieu le 20 janvier 2012. Et le sujet est sur les éoliennes et on cogite encore pour avoir un titre qui va amener du monde. Voilà, un sujet dans le vent.